Vous écoutez Radio Libre. Bonjour et bienvenue sur Radio Libre. Dans cette émission, il sera question d'anthropologie, de journalisme et surtout d'un livre passionnant qui paraîtra cet automne. Histoire vécue du journalisme au Burundi. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui l'autrice de ce livre, la doctoresse Antea Paviotti. Alors bonjour Antea et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pour débuter, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ?
Bonjour à tout le monde. Oui, je m'appelle Antea, je suis doctoresse, effectivement, c'est un joli terme. Je suis anthropologue, je suis italienne et justement, je pense que mon accent m'est trahi, je vais faire de mon mieux, mais normalement les gens aiment l'accent italien, donc ça devrait aller. Et j'ai fait mes études en Italie, à Bologne, en anthropologie. J'ai fini ça en 2013. Puis par après, j'ai commencé à voyager, soit pour travail, soit pour des opportunités de recherche, effectivement. Et j'ai voyagé au Congo et au Burundi. Et c'est par après, en 2017, que j'ai commencé mon doctorat à l'Université d'Anvers, en Belgique. Maintenant, j'habite à Bruxelles. J'avais essayé de commencer un projet de recherche postdoctorale, puis finalement, ça n'a pas trop marché. Mais donc, j'ai continué quand même à travailler sur des sujets sur lesquels j'avais déjà un peu commencé à travailler. Donc, notamment ces projets qui finalement est devenu le projet de livre « Histoire vécue du journalisme au Burundi ». Et donc maintenant, voilà, je suis en train de finaliser ce travail dans le sens qu'il y a aussi un site web qui accompagne ces livres et donc il y a une partie des contenus du livre dont on va parler aujourd'hui qui sont en train d'être publiés sur le site web et le livre va justement sortir à peut-être fin septembre ou début octobre selon ce que la maison d'édition m'a dit. Voilà un peu, brièvement, qui je suis.
Mais pour moi, qui suis un peu profane en la matière, qu'est-ce que c'est exactement une anthropologue ?
Ouais, ben en fait, c'est une vaste question, parce que tout le monde, moi, à chaque fois, quand je dis j'ai étudié l'anthropologie, « Ah, mais c'est super, mais en fait, c'est quoi l'anthropologie ?» Et je pense qu'il n'y a pas une seule définition, en fait, d'anthropologie. Mais moi, j'aime comprendre l'anthropologie comme l'étude de l'homme, évidemment, ça c'est la signification littérale. Mais aussi l'étude des phénomènes humains. Et l'homme est vraiment, disons, multisectoriel. Donc, en fait, quand tu es anthropologue, c'est pas nécessairement seulement la culture, les folklores, les danses traditionnelles, etc., qu'on va étudier. On peut aussi étudier, voilà, les journalismes, comme aussi la médecine, les systèmes politiques, la musique, plein d'aspects qui font l'homme, finalement. Et dans tout sujet qui est étudié, en fait, la perspective est celle de la personne qui est le protagoniste, en fait, des activités qui sont l'objet d'études. Et donc, pour le journalisme, par exemple, dans le travail que je suis en train maintenant de finaliser, dans ce projet « Histoire vécue du journalisme au Burundi », c'est vraiment la perspective des journalistes qu'un anthropologue ou une anthropologue, a priori, va choisir pour analyser ce qu'il y a à analyser. C'est une perspective qui est différente, par exemple, et c'est ce que j'explique un peu aussi au début du livre, une perspective différente de la perspective d'une historienne ou un historien, la perspective d'un spécialiste des médias aussi, par exemple, qui fait des analyses des systèmes médiatiques, et différente aussi, évidemment, de la perspective d'un journaliste ou d'une journaliste qui vise normalement à avoir juste l'information. Mais en même temps, en fait, ça rassemble toutes ces perspectives et c'est grâce à cette approche qu'elle peut parler aux journalistes comme aussi aux historiens, comme aussi aux spécialistes des médias, comme aussi simplement à des gens qui peuvent être intéressés, voilà. Donc, je sais que j'ai peut-être confus encore plus les idées.
Non, non. Mais Non, pas du tout, Antea, pas du tout. On va parler du livre maintenant avec Antea, du livre qui va sortir donc cet automne. Le livre « Histoire vécue du journalisme au Burundi », donc est-ce que tu peux nous présenter un peu l'histoire de ce projet ? Pourquoi tu t'es intéressé déjà au Burundi particulièrement ? Et puis, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre, l'envie de faire ce travail ?
Alors, on va parler de beaucoup d'histoires. D'abord la mienne avec les Burundis, parce que c'est effectivement une histoire qui date depuis des années et des années. J'ai commencé à connaître ces pays en 2012. Là, c'était quand je faisais encore mon master en anthropologie. Et par après, voilà, je suis revenue soit pour des recherches, soit pour les travails, pratiquement chaque année jusqu'à l'année passée, 2024. Et petit à petit, j'ai quand même commencé à connaître ces pays, ces gens. C'était aussi le sujet de ma recherche doctorale, etc. Et pourquoi finalement je me suis focalisée sur les journalistes? Un peu par hasard, j'ai envie de dire, dans le sens que je ne suis pas nécessairement une spécialiste des médias ou une spécialiste du journalisme burundais, mais j'avais commencé à faire des interviews en 2023, plutôt avec des journalistes burundais en exil, ici en Belgique, là où j'habite. Et par après, je me suis rendu compte en fait que ces journalistes, quand ils m'ont raconté leur parcours, ils m'ont raconté en fait des morceaux de l'histoire du journalisme au Burundi. C'était des journalistes, des hommes, des femmes, des Tutsis surtout, mais il y avait des Hutus aussi. Donc les Tutsis et les Hutus, ce sont les catégories sociales principales, disons, ou en tout cas des catégories sociales majeures au Burundi. Et j'ai dit ça parce que le Burundi, c'est quand même caractérisé par des séries de violences entre ces deux composantes ouvertement depuis l'indépendance dans les années 60. Et donc, ça veut dire qu'aussi un journaliste Hutu et un journaliste Tutsi peut avoir des perspectives différentes sur les choses qu'ils racontent. Donc, leurs histoires étaient vraiment intéressantes, particulièrement puissantes et riches en vécu humain. Et je me suis dit, ce serait trop dommage en fait que ces histoires restent juste dans la mémoire de mon ordinateur. Parce que ce sont aussi des histoires que, dans un article académique, c'était ce que j'allais m'apprêter à faire, ils ne trouvent pas d'espace, en fait, parce que tu ne peux pas réellement analyser le vécu des individus, sauf si tu veux faire des analyses sociologiques, ce qui n'était pas l'objectif de mon travail à ces moments-là. Et donc, je me suis dit, bon, il faut quand même que je trouve une manière de donner de la visibilité à ces histoires-là. Et petit à petit, disons, les projets que finalement j'ai appelé « Histoire vécue du journalisme au Burundi », c'est comme ça que ça a commencé à grandir un peu dans ma tête et ça a pris la forme d'une idée de livre. Et donc, dans l'ensemble, j'ai récolté 25 récits des journalistes exilés et non exilés qui ont travaillé des années 70 jusqu'à aujourd'hui et qui continuent d'être actifs et en exil comme au Burundi. Et donc, le livre « Histoire vécue du journalisme au Burundi », si l'on veut, en fait, il restitue au public les histoires, les vécus personnels de ces journalistes. Alors, ces trajectoires qui sont justement des récits de vie, donc les histoires de ces personnes professionnelles et personnelles, dans l'ensemble, elles sont disposées en ordre chronologique. Et donc, des années 70, petit à petit, avec ce qui est raconté dans chaque histoire, ils arrivent jusqu'aux années d'aujourd'hui avec tous les événements du Burundi contemporain, y compris les Burundis à l'étranger, si on peut l'appeler comme ça. Ces histoires racontent finalement l'histoire du journalisme, mais c'est l'histoire vécue, et donc ça veut dire que c'est l'histoire vue et vécue par ces journalistes et racontée par les journalistes même, donc ça veut dire que c'est en fait subjectif, c'est que j'ai voulu absolument respecter.
Tu revendiques donc la subjectivité comme légitime, alors?
Moi, je suis convaincue qu'un regard personnel sur les événements est nécessaire pour apprécier des nuances, des éléments qui ne sont pas nécessairement transmis par les manuels d'histoire. Et les plus souvent, ils ne les sont pas du tout transmis. Parce que un manuel d'histoire, par exemple, ou alors si on ne veut pas parler d'un manuel, mais simplement une analyse chronologique, voilà, de ce qui s'est passé, même dans une histoire des médias. Alors, ça dépend de comment l'auteur va écrire, mais le plus souvent, on va donner une sorte de compte-rendu de ce qui s'est passé. Et pour faire cela, il faut être le plus objectif possible, Ça, c'est dans l'académie comme dans le journalisme, n'est-ce pas? Donc, il faut enlever les émotions, enlever tout ce qui est personnel, tout ce qui est, etc., etc. Donc, on va aussi faire relire les œuvres par d'autres gens pour avoir, pour être sûr qu'en fait, voilà, qu'il y ait le moins de subjectivité possible. Alors, ça, c'est une démarche et c'est absolument légitime et ça aboutit le plus souvent à des ouvrages académiques, etc. Mais je trouve aussi que, et surtout en anthropologie, je trouve que s'il y a une histoire, un fait historique qui est raconté par quelqu'un qui l'a vécu, cette personne, je vois pas pourquoi on doit enlever la légitimité à cette personne de raconter la manière dont lui ou elle, il a vécu ça, en disant que c'est pas neutre ou c'est pas... C'est difficile même de trouver quelque chose qui soit absolument neutre dans l'académie comme dans le journalisme ou ailleurs. Donc, à mon avis, c'est aussi intéressant, à part de connaître les faits historiques, là où il y a les preuves, voilà, de ce qui s'est passé, etc., etc. Mais c'est aussi intéressant de connaître différentes perspectives subjectives sur ces événements-là. Parce qu'à mon avis, il y a une compréhension améliorée du fait en soi, mais surtout, il y a aussi une meilleure compréhension de ce que cet événement-là pouvait signifier par la société, par les gens qui l'ont vécu.
Et justement, tu dis que c'est important d'assumer la subjectivité dans ton travail. Mais est-ce que ce n'est pas un peu en décalage avec ce qu'on attend normalement dans les recherches académiques, où on demande plutôt d'être neutre et objectif? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus?
Mais oui, enfin, moi-même, je me suis confrontée plusieurs fois à ça. Et c'était, franchement, c'était l'une des raisons, ou alors l'une des frustrations qui m'ont poussée à écrire maintenant ces livres, Histoire vécue du journalisme au Burundi. L'objectif de la neutralité, de la prise de distance, etc., c'est important et on peut pas s'en débarrasser simplement et dire, ben voilà, alors chacun raconte ce qu'il veut. Non, c'est pas ça non plus. Mais on peut pas enlever l'humain de sa vie, finalement. Parce que même dans les sciences les plus positivistes, même dans les, je sais pas, en biologie ou, voilà, dans les trucs les plus, les sciences dures, là où on dirait qu'il n'y a pas de subjectivité. Mais même dans ces sciences-là, à la fin des comptes, c'est toujours des humains qui étudient des choses qui concernent l'humain. Alors, ils ne sont pas des anthropologues, ça c'est vrai, mais je ne vois pas pourquoi on devrait en fait prétendre que la nature, que l'homme, que les mondes, c'est une série de règles rigides qu'à la limite on peut contrôler ou alors voilà, on peut étudier les effets et... Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais en plus de ça, il y a la vraie vie. Il y a les vrais hommes et femmes qui font ça et qui dérivent de ça, qui interagissent avec ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi on doit enlever tout ça au nom de la prétendue neutralité, objectivité, etc., etc. Alors, c'est aussi un exercice, c'est un équilibre à garder.
Et dans ton livre, sans trop en dévoiler, bien sûr, est-ce qu'il y a un exemple ou une anecdote que tu pourrais partager avec nous?
D'abord, j'invite quand même les auditeurs, auditrices à regarder déjà ce qui est contenu dans les sites web. Et chaque lundi, il y a un nouveau récit qui va être publié et les types de récits sont un peu les types de récits qui seront aussi publiés dans les livres. Il y a une anecdote, par exemple, d'un journaliste, et ça sera publié par contre dans les sites web, d'un journaliste qui va, à un certain moment, il y avait eu des inondations quelque part pas loin de Bujumbura, l'ancienne capitale du Burundi. Et donc, ils sont allés pour faire un reportage et en fait, ils racontaient qu'ils ont interviewé cette femme, c'était un couple, mais donc il y avait une femme avec un bébé et l'homme, quelque part. Alors, ces personnes, notamment la femme, racontaient que les soirs d'avant, quand il y avait eu ces inondations, il y avait les eaux qui montaient, et en fait, ça avait tellement monté que ça avait dépassé la hauteur de la maison. Alors, eux, ils sont sortis, d'abord l'homme et puis la femme, avec deux enfants. Et donc, il y avait les bébés là qu'on voyait, et puis un autre bébé qui était attaché avec un pagne. Et donc, ils sont montés sur l'arbre. C'était l'homme d'abord, puis la femme avec ses deux enfants. Donc, un enfant dans les bras et l'autre sur les dos. Vous voyez quand on fait les nœuds là. Et sauf que l'eau continuait de monter et finalement, les pagnes s'est desserré et puis les bébés, il est parti comme ça dans l'eau. Et donc, ils ont perdu un bébé comme ça. Ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient rien faire parce que les os étaient là, montés, et chaque mouvement qu'ils pouvaient faire, c'était une autre personne qui allait mourir, quoi. Et ça, voilà, après, les journalistes, bon, il a raconté ça, et puis il a évidemment considéré l'importance des émotions et surtout cet impératif de se détacher des émotions, etc. Parce que ben, ça, si tu es humain, tu ne peux pas ne pas être affecté par ça. Donc, ce que je trouve, et j'espère que aussi le public va trouver fascinant et vraiment poignant, c'est la profondeur, la lourdeur, la richesse de ces vécus-là quand il est transmis entièrement par ces personnes-là qui l'ont vécu et qui les racontent avec leurs mots.
On va mettre les liens en description, comme ça tout le monde pourra aller voir, suivre et voilà. Découvrir chaque semaine une nouvelle histoire vécue du journalisme au Burundi. Merci infiniment d'avoir partagé ton expérience hors du commun avec les auditeurs de Radio Libre, Antea.
Merci beaucoup, avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Différence.